7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Virginie Fulpin pour le journal. Bonjour Virginie.
Bonjour David, bonjour à tous. Un nouveau tour de manège avant un nouveau gouvernement. Les chefs des partis politiques conviés à l'Élysée pour trouver un pacte de non-agression. Une centaine de djihadistes français en Syrie, ce sont les chiffres de la DGSE. On se pose des questions de sécurité après la chute de Bachar al-Assad. Allez, on part dans les mers du Sud. Plusieurs centaines d'écoliers de France dialoguent avec les skippers du Vendée Globe.
Après le journal, l'éditorial de François Vidal et les voix de l'économie. Rébi Badbinet, fondateur de l'agence BETC, sera l'invité de Charles Bonner pour le livre qu'il vient de publier. Pas de publicité, merci. Emmanuel Macron convie les chefs des partis politiques à l'Élysée cet après-midi.
On a remis une pièce dans la machine. Tout devait aller très vite pour nommer un nouveau Premier ministre. Mais finalement, les consultations prennent du temps, comme à la rentrée. Les chefs des partis politiques sont conviés à l'Élysée tout à l'heure, tous, sauf le Rassemblement National et la France Insoumise, pour discuter d'un gouvernement d'intérêt général. Lauriane Toulmont, quel est l'objectif du président de la République ?
La réunion de cet après-midi à l'Élysée peut clore le round des consultations, se perçoit d'un cadre renaissance. Tout ça semble improvisé. Emmanuel Macron paraît sûr de lui, c'est inquiétant. Souffle-t-on au MoDem avant de poursuivre. Le président doit se dire, j'ai réussi à mettre dans la même pièce Trump et Zelensky, je peux faire pareil avec Tondelier, évoqué. Une seule certitude pour les alliés de l'insondable président, Emmanuel Macron cherche une solution pour ne plus dépendre de la censure du Rassemblement National. C'est la gauche qui aura le pistolet, affirme un centriste. Pourtant, le président ne croit pas à l'entrée de la gauche au gouvernement, précise-t-on chez les Républicains. Il veut bâtir un accord de non-censure avec la gauche, mais sans participation au gouvernement, nous dit-on. Pour y parvenir, certains veulent aller vite. Le président a promis qu'il nommerait un Premier ministre mercredi, au plus tard, répète un stratège macroniste. Il n'y a pas d'urgence, il va prendre son temps, croit savoir de son côté un sénateur LR. Alors à quand un nom pour Matignon ? Après les fêtes de fin d'année, c'est possible, affirme l'élu. C'est reparti pour un tour de manège, s'agace un macroniste.
Chez les absents, à la France Insoumise, on ne comprend pas. Manuel Bompard se demande comment les socialistes, les communistes et les écologistes peuvent envisager un gouvernement d'intérêt général. Et au Rassemblement National, Jordan Bardella dénonce l'exclusion de son parti de la Réunion en parlant d'une élégance hallucinante. L'hiver approche, les températures baissent et les nez coulent. À partir de demain, 8 médicaments anti-rhume ne pourront plus être délivrés sans ordonnance. C'est une décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament à cause des effets secondaires de ces traitements, des effets qui peuvent aller jusqu'à des AVC ou des infarctus.
Vous écoutez Radio Classique, il est 7h03, la Syrie entre dans une ère d'incertitude.
Les rebelles islamistes qui ont fait chuter Bachar al-Assad préparent le transfert de pouvoir. Ils vont également publier une liste des tortionnaires du régime déchu. Ils ont d'ailleurs découvert une quarantaine de corps avec des traces de torture dans un hôpital près de Damas. On sait que le régime d'al-Assad est responsable de milliers de crimes, mais on ne sait pas ce que fera le nouveau pouvoir. Le spectre du djihadisme refait surface. D'après la DGSE, une centaine de djihadistes français sont encore en Syrie aujourd'hui. Et c'est un vrai enjeu de sécurité pour la France, nous explique Guillaume Fard. Il est enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions de sécurité.
Il faudra voir comment seront traités les djihadistes. Et est-ce qu'ils bénéficieront ou pas d'une forme de complaisance qui leur permettrait de reconstituer des réseaux. Il y a quelques dizaines de personnes qui étaient encore, selon les dernières informations, sur place dans des prisons notamment tenues par les Kurdes. Et si les Kurdes étaient déstabilisés, notamment sous l'effet de l'action que conduit la Turquie à leur encontre, ces personnes pourraient se trouver dans la nature. À moyen terme, l'évolution de la situation en Syrie peut avoir des conséquences sur le niveau de la menace terroriste islamiste en France.
Des propos recueillis par Victoire Fort. Les pays européens jouent la prudence. Plusieurs ont déjà gelé les demandes d'asile des Syriens. La France y travaille et devrait suivre le même chemin que l'Allemagne, l'Italie ou le Danemark, par exemple. Bachar al-Assad, lui, a fui la Syrie. Il est à Moscou, même si le pouvoir russe ne confirme pas. La Russie fait partie des perdants de ce bouleversement en Syrie, comme l'Iran, deux alliés de l'ancien régime syrien. Abou Mohammad al-Jouani, le chef des rebelles, a déjà dit tout le mal qu'il pensait du pouvoir iranien. Si la rupture se consomme, c'est toute la stratégie régionale de l'Iran qui s'effondrera, pour le spécialiste de l'Iran Thierry Coville.
Ça fragilise la stratégie que l'Iran a mise en place de l'axe de résistance, c'est-à-dire l'axe de résistance comprend le Hezbollah libanais, comprenait le gouvernement syrien de Bachar el-Assad, les milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen et le Hamas. L'idée, c'était d'affaiblir Israël à travers une lutte armée. Et puis également, ça donnait une profondeur stratégique à l'Iran. L'Iran disait à ses ennemis, disait, si vous m'attaquez, je peux répondre à travers la région. La Syrie, c'est le seul gouvernement arabe qui faisait partie de cet axe de résistance, mais surtout, la Syrie permettait le transfert des armes de l'Iran jusqu'au Hezbollah libanais. La chute du gouvernement de Bachar el-Assad, c'est un coup très dur porté à cette stratégie de l'axe de résistance iranien.
Thierry Coville répondait à Eric Kioch. L'armée israélienne multiplie, elle, les raids aériens contre les installations militaires syriennes depuis la chute de Bachar el-Assad. Au moins 250 frappes depuis dimanche. Il navigue entre Australie et Antarctique. Ça fait 29 jours exactement que les concurrents du Vendée Globe sont partis des Sables d'Olonne. Charlie Dalin est en tête. Loin des mers du Sud, des centaines d'écoliers suivent les aventures des skippers, comme cette classe de CM1 de l'école des mages dans le Gard. Hier, les élèves ont dialogué avec la navigatrice Samantha Davis. Reportage de notre correspondante Estelle Henry.
Aujourd'hui est un jour spécial pour les élèves et la bonne nouvelle vient du calendrier de l'Avent.
Avec Samantha Davis.
Ouais ! Mais avant de préparer les questions, il faut positionner les skippers sur la carte, un rituel quotidien qui passionne les enfants, comme Nino et Elliot, tous les deux fans du même skipper.
C'est Jean Lecam. Il a sauvé une vie il y a 4 ans d'un skipper. C'est un héros.
Ça me fait rêver, c'est trop bien. Avec mon copain Nino, on joue souvent à la récré au Vendée Globe, comme si on était des skippers.
Avec 30 minutes de visio avec la navigatrice à laquelle 300 classes de toute la France participent. La question choisie par la classe, combien de fois vous changez-vous par semaine, s'affiche tout à coup à l'écran.
Ouais, on a été choisis.
Ouais. Une maîtresse, Julie Sanchez, aussi contente que ses élèves de pouvoir leur faire découvrir la course mythique.
Le Vendée Globe permet de couvrir toutes les matières qu'on travaille à l'école, que ce soit le français, la production d'écrit par exemple, en mathématiques, le repérage sur quadrillage, le calcul de durée, en géographie, les océans, les continents. Et en fait, les enfants apprennent, mais sans s'en rendre compte.
Et cette semaine, les élèves ont commencé à écrire un journal de bord sonore.
Samantha Davis est 12e au classement de ce Vendée Globe pour l'instant. Alors, les élèves disaient qu'ils jouaient au Vendée Globe dans la cour de récré. David, ça, je ne sais pas si ça vous dit, je ne sais pas exactement comment on joue au Vendée Globe d'ailleurs.
Bah, vous vous mettez dans votre baignoire, vous prenez le rideau de douche, vous soufflez dessus et vous vous mouillez les cheveux. Vous revenez à 8h, Virginie, à suivre l'éditorial avec les échos. François Vidal dresse un premier bilan de l'action du président argentin du président argentin Milei, l'homme qui combat les déficits et l'inflation avec une tronçonneuse. Radio Classique 7h07.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
C'est l'histoire de Sarah, qui a ouvert puis agrandi sa boutique de fleurs avec le soutien de Banque Populaire. C'est aussi l'histoire d'un million d'entrepreneurs partout en France qui ont pu développer leur activité grâce à Banque Populaire. Être la première banque des entreprises, c'est soutenir ce qui dynamise nos régions. Parce que la plus belle des réussites, c'est celle qui rayonne. Banque Populaire, la réussite est en vous. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 Banques Populaires, première banque des PME.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. La Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-Écosse, Boston, Halifax, New York, la fascinante. C'est ce que je vous propose avec Radio Classique sur un yacht de croisière ponant, avec au piano la grande Chani Di Luca et John Gade, au violon le jeune prodige Luca Faolisi, Christian Pierre Lamarca au violoncelle, Pierre Génisson, la star de la clarinette, et la fée Lucienne Renaudin-Vary à la trompette et au chant, le rêve américain.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1,
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h10, l'éditorial de l'économie.
Avec France Valais. Investissez dans la forêt en France et en Europe.
Bonjour François Vidal.
Bonjour David.
Le fantasque économiste libertarien Javier Milei est président de l'Argentine depuis un an. Maintenant, quel bilan peut-on tirer de son action?
Alors sur la forme, il est à la hauteur des attentes. Lui qui avait fait campagne une tronçonneuse à la main continue de donner dans l'outrance, méritant plus que jamais son surnom de Trump sud-américain. Mais la vraie surprise, c'est que sur le fond aussi, son action, qui s'apparente à celle menée par Margaret Thatcher au début des années 80, porte ses fruits. Depuis son arrivée au pouvoir, l'inflation mensuelle a été divisée par 10, la situation des finances publiques assainie et une partie des capitaux qui avaient fui l'Argentine ces dernières années y est revenue. Bref, il a ranimé une économie moribonde. Sa recette, une dévaluation de 50% du peso, la réduction des dépenses publiques de près d'un tiers, une amnistie fiscale et une dérégulation XXL. Cette potion libérale très amère a fait basculer des millions d'Argentins dans la pauvreté mais devrait permettre au pays de renouer avec la croissance dès l'année prochaine.
De quoi justifier que cette politique de Javier Milei soit érigée en exemple par certains?
Son ami Elon Musk ne s'en prive pas, en tout cas, lui qui aura pour mission de tailler dans les dépenses fédérales au sein de la prochaine administration Trump. Mais il est sans doute beaucoup trop tôt pour trancher cette question. Il faudra pour cela que l'embellie se confirme et que les investisseurs étrangers reviennent dans le pays, ce qui n'arrivera pas tant que le contrôle des changes sera maintenu. Et le paradoxe, David, c'est que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, promesse d'un dollar fort, pourrait desservir son clone sud-américain. Mais pour autant, le volontarisme de Javier Milei a déjà montré une chose, c'est que volonté réformatrice et rigueur budgétaire dans un pays surendetté n'est pas synonyme d'impopularité. En novembre, 56% des Argentins soutenaient son action, de quoi donner à réfléchir du côté de Paris et ailleurs sur les vertus du courage politique.
Et pas de la tronçonneuse quand même. François Vidal pour l'éditorial avec les Échos. Les Échos qui titrent ce matin « L'Europe décroche » face à Wall Street. À suivre, les voix de l'économie, le fondateur de BETC, le publicitaire Rémi Babinet, publie pas de publicité, merci, il est l'invité de Charles Bonner. Radio Classique, 7h12, tout de suite, l'essentiel de l'économie. À la une ce matin, un plébiscite. Les actionnaires de Vivendi ont validé hier la scission du groupe en 4 entités. À partir de lundi prochain, le 16 décembre, Canal+ sera donc coté à Londres, Havas à Amsterdam, Louis Hachette et Vivendi à Paris. Les actionnaires auront donc 4 actions au lieu d'une seule. La fonction publique n'attire plus. Un rapport de France Stratégie souligne une crise structurelle. 15% des postes offerts au concours de la fonction publique d'État n'ont pas été pourvus en 2022 et les départs sans lien avec la retraite ont augmenté de 47% depuis 2014. Et puis OpenAI, le créateur de ChatGPT, lance la dernière version de Sora, son intelligence artificielle générative de vidéo. Elle sera accessible aux abonnés de ChatGPT Plus et Pro, mais pas disponible sur les marchés européens et britanniques à ce stade.
Peugeot. Vous êtes sur la route et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si maintenant je vous dis que vous pourriez repartir au volant de cette 208, en version électrique, hybride ou thermique, et en plus, disponible immédiatement à partir de 130€ par mois seulement, ça aussi c'est pas mal, non?
LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer 3 400€ pour une 208 style essence neuve en stock sous conditions de reprise. Réservé aux particuliers jusqu'au 15 décembre si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Dis donc, tout le monde parle de Bitcoin, de crypto, moi j'y comprends rien.
Fais comme moi, passe par CoinHouse. C'est sérieux, des experts t'accompagnent et en plus c'est français.
Ah, c'est rassurant ça.
Bien sûr, avec CoinHouse, tout est clair, accessible. C'est l'idéal pour acheter des cryptos.
Redis-moi comment ça s'appelle ?
CoinHouse, comme dans Bitcoin.
CoinHouse SAS, 14 avenue de l'Opéra, Paris 1er. La crypto-monnaie présente un risque de perte en capital lié à la volatilité des cours et à la cybersécurité. Plus d'infos sur CoinHouse.com.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Les voix de l'économie, votre invité est Charles, c'est le fondateur de l'agence BETC, le publicitaire Rémi Babinet qui publie pas de publicité, merci.
Bonjour Rémi Babinet.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes selon Forbes l'un des 10 meilleurs publicitaires de tous les temps. On vous doit notamment la publicité des bébés Evian. Comment on explique que cette publicité-là, par exemple, soit restée dans les mémoires ?
Je pense que la publicité, c'est à la fois très simple et très compliqué, mais c'est de l'émotion et c'est de la raison. Donc c'est un mélange d'analyse de voilà de l'histoire d'Evian. Pourquoi on aime cette marque ? Parce qu'on avait l'eau d'Evian dans nos bibons quand on était petit. Et on n'a pas envie non plus qu'on nous raconte des choses trop rationnelles sur l'eau, etc. On a envie d'émotion. Et donc on croise les deux et ça marche.
Il y a donc une recette, un mécanisme pour avoir une bonne pub?
Non, parce que enfin moi je considère qu'à chaque fois j'ai un problème différent et j'ai pas de solution toute faite. C'est le charme des agences, c'est l'intérêt de ces endroits où on se confronte et on essaye de trouver une réponse à chaque problème donné.
Dans votre livre, pas de publicité, merci, hein, c'est aux éditions JBE Books, c'est un pavé, hein, plus de 1200 pages. Vous retracez l'histoire de la publicité, de votre agence BETC. On entend souvent qu'elle était mieux avant, la publicité. Pourquoi il y a ce sentiment-là?
Moi, je suis pas trop d'accord parce que c'est pas. J'ai jamais été dans cette énergie-là. Je dis pas que c'est de plus en plus facile. C'est même un peu plus compliqué chaque jour. Mais c'est pas parce que c'est plus compliqué, parce que les formats changent, les technologies changent, que c'était mieux avant. L'intérêt de ces changements technologiques, de l'accélération des data, de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va bosser avec de nouveaux outils, mais en même temps, on a fait ça depuis le début de la publicité.
La publicité est toujours donc un reflet de son époque.
C'est un reflet, voire un agent. C'est beaucoup de choses. En tout cas, c'est une activité qui est au centre du commerce et de l'art. Et ça fait des agences de publicité un endroit extraordinaire. Enfin, art et commerce, c'est commerce. On est là pour porter la voix de grands commerçants, de grandes industries, voire d'associations. Il y a plein d'institutions qui ont besoin de faire de la publicité. Et pour ça, on fait appel à des photographes, des réalisateurs, etc., etc. Et donc, on est vraiment à un carrefour. Donc, la société, on en parle tous les jours et on la fait un peu tous les jours.
Et vous dites dans votre livre qu'un annonceur doit construire son image sur un détail fort. Est-ce que parfois les annonceurs sont un peu frileux à utiliser un détail?
Ah ben, on est tous frileux à cette idée-là parce que on s'estime très complexe et très intéressant parce que complexe. Mais la publicité, c'est un petit peu brutal. Effectivement, il faut trouver un détail. Je donnerai un exemple, un parallèle. Quand on parle de Paris, quand on veut aller vite, on parle de la Tour Eiffel. Ça ne résume pas Paris.
Et c'était une pub RATP.
Mais ça va très vite, oui. C'est ce qu'on avait fait pour la RATP, ouais. Mais c'est intéressant, hein, cette notion de détail. Il faut trouver le bon et ensuite on construit tout derrière.
Et certaines affiches, y compris pour des voyages, on le voit dans le métro, ou je pense au film Coca-Cola qui a été réalisé entièrement en intelligence artificielle. Est-ce que cela veut dire que le métier de créatif, de publicitaire est en train de mourir?
Pas du tout. Moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Au contraire, ça m'amuse. Sachant que voilà, elle se développe à toute vitesse et que ce sont des machines, c'est tout. Il y a le mot intelligence dedans, ça trompe un peu tout le monde, mais c'est des machines très sophistiquées. Mais en même temps, on s'est habitué à avoir des machines de plus en plus sophistiquées. Moi, je pense qu'on peut faire de l'IA une assistance extraordinaire, que ça soit en création ou en mathématiques ou en plein de domaines. Mais c'est juste un degré supérieur de l'assistanat, quoi.
Le marché a beaucoup évolué ces dernières années avec une part grandissante du numérique. Le marché a même été morcelé. Plus d'espace disponible forcément sur Internet. Est-ce que cela veut dire que à l'avenir, il y aura plus de bannières, plus d'affiches sur les sites Internet et un petit peu moins de grands films à la télévision?
Ça, c'est vrai parce que quand on voit... le marché de la pub, il est très en forme, hein.
Il continue de progresser.
Il continue de progresser mondialement, en France... Donc la part du digital ou de tous ces nouveaux médias digitaux, elle augmente à chaque fois. Et la croissance est beaucoup plus forte sur cette partie-là. Ça ne veut pas dire que les médias traditionnels ne croissent pas, ils croissent moins vite, mais ils croissent. On dit croissent ?
Ils croient ?
Ils croient.
Ils croient ?
Hein ?
Je crois, oui.
Je crois. Mais en tout cas, il y a une croissance extraordinaire de tous ces nouveaux médias dus à l'accélération des technologies.
Dans cette bataille des grosses agences qui existent, l'américain Omnicom, qui possède en France DDB ou TBW ou encore Romance, veut racheter IPG, qui est le propriétaire de McCann. Il y a aussi, comme dans d'autres secteurs de l'économie, un regroupement des grosses agences à l'échelle internationale. Sachant que vous faites partie du groupe Havas, vous-même.
Tout à fait. Je crois que c'est toujours intéressant dans des périodes de mutations technologiques énormes comme celles qu'on traverse, d'avoir des regroupements qui sont des synergies, qui créent des synergies entre les métiers. Donc, je comprends hein, ces grands regroupements. Après, il faut voir comment ça se danse dans la réalité. Mais je comprends la logique de loin, disons.
Mais à quoi servent ces synergies ?
À mon avis, c'est des gains de productivité. Mmh. C'est des activités qui sont mieux articulées mondialement. Sachant que je trouve, enfin, personnellement, c'est ce que je raconte un peu dans mon livre, c'est que actuellement on est fasciné par ces accélérations technologiques, data, techno, IA. On l'est moins et du coup les clients sont très attentifs à ça. On l'est moins sur la fabrication des messages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit aux gens, comment on leur dit, moi c'est mon truc. Plus que le nombre de fois où on va les toucher, est-ce qu'on va leur vendre du dentifrice quand ils se lavent les dents, etc., etc.
Et alors certains marques parfois prennent des positions qui peuvent être politiques ou qui vont rebondir sur l'actualité. C'est vous qui les conseillez de le faire ?
Vous parlez de quoi exactement ?
Une position politique. Parfois, certaines entreprises, il y a eu aux États-Unis qui ont pris position dans la campagne présidentielle ou qui vont rebondir sur une partie de l'actualité.
En fait, les marques sont opportunistes, donc elles sont un peu politiques dans le sens où l'évolution de la société est tellement rapide aussi elle-même que elles peuvent épouser tel ou tel courant. Il y a des marques qu'on a dit woke entre guillemets et d'autres qu'on a dit conservatrices. Donc elles sentent que elles ont un fond de commerce et qu'il faut savoir leur parler. Donc il y a des positionnements comme ça des marques dans la société.
Merci Rémi Babinet, le cofondateur de l'agence BETC. Je rappelle votre livre, Pas de publicité. Merci, c'est aux éditions JBE Books.
Merci à tous les deux. À demain 6h, Charles, pour le tour de l'actualité économique. À suivre, une question, le Rassemblement National va-t-il payer ? Paye-t-il déjà la facture du vote de la censure ? À suivre donc les coulisses de la politique. Mais tout de suite, si on parlait français et pour information, je crois, tu crois, il croit, nous croissons, vous croissez. Ils croissent, elles croissent. Donc vous étiez bon. Bonjour Karine.
Bonjour David.
Aujourd'hui, des idées fausses, c'est-à-dire des expressions qu'on corrige souvent alors qu'elles sont bonnes, en fait.
Oui, j'ai envie de les désigner par le terme plus royaliste que le roi. Mmh. Par exemple, il y a la tournure « par contre ». Les puristes ont tendance à s'insurger quand ils entendent « par contre ». Pourtant, cette locution n'a rien d'incorrect et elle est tout à fait admise à l'oral. Néanmoins, à l'écrit, il faudra lui préférer « en revanche », qui est évidemment d'un registre plus soutenu. Je précise toutefois que la locution « en revanche » ne plaît pas à tout le monde en raison de la présence du mot « revanche » qui est un synonyme de vengeance.
Autre expression qu'on a tendance à corriger alors qu'on ne devrait pas nécessairement, c'est « ce midi ». Je l'ai vu ce midi.
Oui, ce midi, plusieurs auditeurs m'ont demandé de rappeler le fait que « ce midi » était incorrect et qu'ils l'entendent souvent de la part de journalistes. Pourtant, rien n'est très clair à ce sujet. Même l'Académie française, qui n'est pas la plus laxiste en la matière, rappelle le fait que « ce midi » est tout à fait acceptable car analogue à « ce matin » ou à « ce soir ». Pourquoi ? Parce que « midi » désigne une heure précise, certes, mais aussi une période du jour, le milieu de la journée, entre le matin et le soir. Et d'ailleurs, le mot « midi » est référencé dans les dictionnaires comme un nom masculin. Pourtant, certains insistent sur le fait qu'on ne dit pas « ce minuit », donc il faudrait éviter de dire « ce midi ».
Oui, mais on dit « cet après-midi ».
Aha. Oui, exactement. Donc dans ces cas-là, pour ne pas avoir de problème, je vous conseille de dire « où allez-vous déjeuner ?» ou alors « où allez-vous à midi ?»
Autre exemple, ne pas confondre second et deuxième, c'est pas du tout la même chose.
Mais oui, nous avons longtemps cru que deuxième était forcément suivi d'un troisième, tandis que second ne devait être suivi de rien. Eh bien, c'est une idée fausse.
Ah bon ?
D'ailleurs, on parle bien de la classe de seconde qui est entre la troisième et la première. Donc second, c'est simplement d'un registre de langue plus soutenu.
Donc cet enfant est le second, si j'en ai eu un troisième, je peux dire second.
Absolument.
Eh ben voilà, j'ai appris quelque chose. Comme beaucoup de nos auditeurs, j'imagine. À demain, Karine.
À demain.
Avec Optique 2000, découvrez les verres progressifs Varilux.
Pour voir de près.
Comme de loin.
À l'extérieur.
Comme à l'intérieur.
Confortablement sur tous les écrans.
En lisant. Ou en conduisant.
Pour bénéficier d'un conseil personnalisé et découvrir les verres Essilor les mieux adaptés à votre vue, rendez-vous chez votre opticien Optique 2000. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Ces produits sont des dispositifs médicaux.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Écoutez, monsieur Martin, mon banquier a été catégorique. Nous devons absolument ralentir le rythme de nos dépenses. Et moi, je souhaite surtout pas me fâcher avec mon banquier, vous savez. C'est pour ça que pour votre facture, monsieur Martin...
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2023, le cabinet Arc a réalisé 900 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
Retrouvons David Barou, rédacteur en chef du journal Les Échos.
Prêt à percer les mystères du héros légendaire 13? À l'occasion des 40 ans de la célèbre BD, Les Échos Weekend lui consacre un hors-série collector. Décryptage, croquis, reportage, 100 pages richement illustrées pour vous plonger au cœur de cette saga mythique. Un hors-série exclusif, Les Échos Weekend, en vente dès maintenant chez votre marchand de journaux.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis. Entreprise, j'agis pour assurer mon avenir.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Et avec AJP, retrouvez le décryptage du lundi au vendredi à 7h54 sur Radio Classique.
À suivre les coulisses de la politique, Marcelo Westfred.
Renew.
Avec Renew, véhicule d'occasion toute marque des réseaux Renault et Dacia, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Jusqu'au 31 décembre, profitez de la borne de recharge offerte sur toute notre gamme de véhicules d'occasion 100% électriques. Renew, véhicule d'occasion reconditionné et certifié. Borne d'une valeur de 600 euros hors taxe pour forfait borne plus installation. Offre à particuliers et professionnels du 1er au 31 décembre, voire conditions sur fr.renew.auto.
Renew.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Marcelo Westfred, chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Marcelo.
Bonjour David.
Les partis qui ont voté la censure doivent maintenant justifier l'instabilité institutionnelle qui en découle au risque de froisser leur propre électorat.
Ce dimanche avait lieu une élection législative partielle dans les Ardennes et le candidat du RN, Jordan Duflo, était arrivé largement en tête et il aurait dû gagner le second tour. Il a même eu le droit à une visite il y a quelques jours d'un autre Jordan, Jordan Bardella. Mais voilà, il a été coiffé sur le poteau par Lionel Vibert, un ancien député macroniste qui se présentait sans étiquette. C'est un peu comme si une partie des électeurs avait finalement refusé de voter RN en raison du choix de Marine Le Pen de voter la censure. Un choix qui a satisfait la base la plus radicale, mais qui a sans doute effrayé les électeurs les plus modérés, ceux qui pensaient que le Rassemblement National avait mué. Je précise toutefois, David, que la participation était très basse, on peut donc pas généraliser, mais c'est tout de même un signal.
Alors ce phénomène peut toucher aussi les partis de gauche qui ont voté également la censure.
Oui, j'en veux pour preuve la quinzaine de permanences de parlementaires dégradées ou emmurées ce week-end par des agriculteurs de la FNSEA. Ils sont en colère parce que la censure a entraîné le report sine die du texte agricole qui avait déjà été reporté une première fois à cause de la dissolution. Les agriculteurs n'en peuvent plus, ils avaient obtenu des mesures urgentes qui tombent encore à l'eau. Alors ils ont ciblé la permanence de François Hollande à Tulle, cet ex-président de la République, qui a choisi de faire tomber un gouvernement en plein budget. La députée socialiste Marietta Caramanli a vu sa permanence dans la Sarthe aspergée de lisier. L'écologiste Benoît Biteau, c'est en Charente-Maritime, il a eu le droit, lui, à 80 tonnes de fumier devant la porte. Le coup de la censure va être terrible pour le Parti Socialiste et pour le RN, me disait hier le député indépendant Harold Huvard. Il est élu, lui, dans l'Eure-et-Loire. Les gens, disait-il, sont ulcérés par le désordre, par l'instabilité. Fin de citation. C'est peut-être ce qui explique le changement de ton auquel on assiste dans une partie de la gauche. Écologistes, communistes et socialistes veulent désormais trouver des solutions, une issue, discuter avec Emmanuel Macron, ce qu'ils feront tout à l'heure à l'Élysée. Ils parlent désormais de concessions, de compromis, comme si un brin de remords parcourait les rangs du nouveau Front populaire.
Vous allez peut-être réfléchir avant les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred, chaque matin sur Radio Classique vers 7h25. À demain Marcelo. Tout de suite le temps.
Avec la Banque Transatlantique, donnez de nouveaux horizons à vos projets d'investissement.
Pierre Pilet, bonjour.
Bonjour à tous.
Des nuages et des températures peu élevées aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, il fait gris dans la quasi-totalité du pays. On devrait apercevoir un peu le soleil en Bretagne et près de la Méditerranée. Température maximale 4 degrés à Lyon, 6 à Lille, 7 à Strasbourg, Paris et Bordeaux.
KPMG présente, grâce à nos ETI, Fabrice Lundy.
Ce groupe familial de Sorgues dans le Vaucluse excelle depuis plus de 60 ans dans le secteur des mines, des carrières, du forage, Aladjian. À sa tête avec son frère, Nelly Aladjian, troisième génération.
Grâce à mon ETI, vous pouvez rouler sur des routes, des autoroutes, prendre le TGV, puisque nous sommes fournisseurs d'entreprises de construction. On est dans la chaîne de valeur des carrières. On leur vend des pièces, du service et de l'engineering pour toutes leurs machines, leurs équipements roulants, leurs équipements de concassage. Mais vous pouvez également téléphoner, rouler en véhicule électrique. Nos clients sont des miniers qui extraient les métaux rares, le lithium. Donc nous leur fournissons les pièces, le service, l'ingénierie pour que leurs installations puissent tourner 24-24, 7 jours sur 7.
Nelly Aladjian, la directrice générale du groupe Aladjian.
KPMG s'engage pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable grâce à sa présence dans tous les territoires. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Pierre Pilet pour le journal de 7h30.
Sans ambassade, sans gouvernement et donc sans chef de la diplomatie, quel peut être le poids de la France concernant la transition en Syrie? Emmanuel Macron se dit prêt à coopérer avec les nouveaux dirigeants. Pendant ce temps, Israël détruit l'arsenal militaire du régime de Bachar al-Assad. Précision dans ce journal. Il va libérer potentiellement 10 milliards de tonnes de méthane d'ici 2030, le gaz naturel liquéfié au cœur d'un sommet en Allemagne.
Le transfert du pouvoir se met en place en Syrie.
Le chef des rebelles Abu Mohammad al-Jolani s'est entretenu avec l'ex-premier ministre hier. Il dirige le HTS, ex-branche d'Al-Qaïda, à la tête de la coalition qui est arrivée à Damas et a fait chuter le régime de Bachar al-Assad. Emmanuel Macron et le chancelier allemand se disent prêts à coopérer avec les nouveaux dirigeants en Syrie, sous condition. Quel rôle Paris peut jouer dans la transition? L'ambassade en Syrie est fermée depuis 2012, ce qui complique la tâche pour la diplomatie française, Victoire Fort.
Voilà plus de 12 ans que la diplomatie française a quitté la Syrie. Un changement total de paradigme pour la France qui jusqu'alors reconnaissait les États et non les régimes et ne prenait jamais l'initiative de fermer ses ambassades. Alors aujourd'hui, c'est surtout la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, forte de ses relais sur place, qui remonte les informations au Quai d'Orsay. Dans le haut de la liste des priorités françaises, le respect des minorités. Discrètement, des discussions vont s'engager avec le nouvel homme fort, Abu Mohammad al-Jolani, et en la matière, rien de mieux qu'une carotte et un bâton. Jean de Glignassy est un ancien ambassadeur.
Si vraiment ce que dit Jolani est vrai, qu'il a envie de restaurer la Syrie, il soit sensible à une normalisation progressive des relations avec la France, qui a encore une certaine influence dans la région. Cette normalisation, c'est la carotte. Le bâton, c'est un éventuel soutien militaire aux Kurdes, s'ils s'attaquent aux Kurdes. C'est divers moyens de soutenir les minorités.
Mais voilà une difficulté supplémentaire pour la France. Toute négociation nécessite des engagements des deux parties et la parole d'un ministre démissionnaire pèse peu.
Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, suspendent les procédures de demande d'asile pour les Syriens. En France, l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et apatrides, dit suivre avec attention la situation en Syrie. La Syrie, où Israël mène des attaques massives pour détruire les installations militaires du régime de Bachar al-Assad, c'est ce qu'affirme une ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Marc Tédé.
Mais oui, cette organisation qui s'appuie sur un vaste réseau d'informateurs à travers toute la Syrie affirme qu'Israël a entre autres bombardé des aéroports, des radars, des dépôts d'armes et de munitions et des centres de recherche militaire dans plusieurs régions, dont celle de Damas. La presse israélienne évoque, elle aussi, des frappes à Raqqa et dans la banlieue d'Alep. Tzal aurait également endommagé des navires de la marine syrienne en ciblant une unité de défense aérienne près du port de Latakié. Le quotidien israélien Yediot Aharonot affirme même que la destruction au sol de l'armée de l'air syrienne est en cours. Mesure de précaution de Tzal, l'armée israélienne, qui confirmait dès hier avoir par ailleurs détruit des armes chimiques en Syrie, justement pour en priver potentiellement les rebelles. Elle reconnaît également une incursion dans la zone tampon à la lisière de la partie du plateau du Golan occupée et annexée.
Les précisions de Marc Tédé en direct sur Radio Classique. Les secouristes syriens de leur côté arrêtent les opérations de recherche dans la prison de Saïnaïa au nord de Damas. Ils soupçonnaient l'existence l'existence de cachots souterrains. Aucun détenu découvert. Plus de 100 000 personnes sont mortes dans ce complexe pénitentiaire. C'est ce qu'a dit en 2022 l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Radio Classique, 7h34, un massacre en Haïti ce week-end.
Au moins 184 personnes tuées près de la capitale Port-au-Prince. Des meurtres ordonnés, selon une ONG, par un chef de gang contre des pratiquants du culte vaudou. Le Premier ministre parle d'un acte d'une cruauté insoutenable qui a coûté la vie principalement à des vieillards. Depuis le début de la crise sur l'île en février, 700 000 personnes ont été déplacées par la violence des gangs. Une force internationale doit être déployée, ce qui prend trop de temps, déplore le géographe haïtien Jean-Marie Théoda.
400 policiers kényans ont été déployés en Haïti depuis le mois de juillet, alors que nous avons affaire à des bandes criminelles qui ont à leur disposition des armes de guerre. On avait parlé de 100 millions de dollars mis à la disposition de cette mission qui devait être déboursée par les États-Unis, mais dans le contexte des élections américaines, cette promesse a été mise aux oubliettes. Donc nous sommes très inquiets et pessimistes quant à la possibilité de renforcement de cette mission pour obtenir des résultats tangibles en matière de sécurité en Haïti. Si Haïti avait une frontière continue avec les États-Unis, avec le Mexique, avec Cuba, je pense qu'on considérerait avec plus de sérieux l'appel à l'aide d'Haïti.
En France, Emmanuel Macron reçoit encore les cadres des partis politiques, hormis ceux du Rassemblement National et de la France Insoumise, sont à l'Élysée à 14h, toujours pas de Premier ministre. À partir de demain, il faudra une ordonnance pour acheter 8 médicaments contre le rhume en pharmacie, décision de l'Agence de sécurité du médicament. Des comprimés considérés comme dangereux depuis des années, on y revient dans le journal de 8h.
Le sommet mondial du gaz naturel liquéfié a commencé hier à Berlin.
Plus de 100 nouveaux terminaux gaziers construits ces deux dernières années, plus de 150 autres en projet d'ici 2030. Preuve que le GNL a du succès, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine. Il permet de se passer du gaz russe, mais plus l'attrait grandit, et bien mécaniquement, plus l'émission de gaz à effet de serre augmente, Rémi Pfister.
Pour être liquéfié et transporté par bateau, le gaz naturel est refroidi à moins 162 degrés. À cette température, les fuites de méthane sont inévitables. 10 milliards de tonnes de ce gaz à effet de serre pourraient ainsi être libérées d'ici 2030, selon certaines ONG. Elles parlent de l'équivalent annuel de la totalité des centrales à charbon du monde. Pour l'économiste Samir Andali, spécialiste de l'énergie, la comparaison est hasardeuse, mais il le reconnaît, le gaz naturel liquéfié n'est pas sans risque pour la planète.
Pour l'instant, on n'a pas de connaissances assez fournies pour se dire si c'est plus ou moins polluant que du charbon en fonction de la distance. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est qu'effectivement, le méthane, c'est un gaz à effet de serre avec un potentiel de réchauffement climatique qui est de 86 fois supérieur au potentiel de réchauffement climatique du CO2 sur une échelle de temps de 20 ans. Les États-Unis produisant leur gaz par la méthode de la fracture hydraulique, c'est aussi une méthode qui relâche à peu près 3 fois plus de méthane dans l'atmosphère qu'une méthode de forage classique.
Les États-Unis sont leaders de l'exportation avec plus de 170 installations boostées depuis la guerre en Ukraine par les banques internationales. 202 milliards ont été investis outre-Atlantique. Les capacités mondiales d'exportation du gaz naturel liquéfié pourraient donc augmenter de 50% d'ici 2030, au risque de dépasser la demande et donc de faire baisser le prix du gaz. Cela pourrait ralentir la transition énergétique de nombreux pays préférant faire des économies.
Rémi Pfister, 77 prix Nobel de physique, chimie et médecine entre autres, dénoncent dans une lettre ouverte le choix par Donald Trump de Robert Kennedy Jr. comme futur ministre de la Santé aux États-Unis. Cela représenterait un risque pour la santé publique, écrivent les signataires. Robert Kennedy Jr. a propagé des théories du complot, notamment sur les vaccins contre le Covid.
Merci Pierre. Rendez-vous à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre, l'écho du monde, comment la Turquie pousse ses pions en Syrie.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Renault. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Pourtant, 50 ans après son lancement, Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique, jusqu'à 410 km d'autonomie et fabriqué en France.
Profitez de Renault 5 E-Tech électrique avec borne de recharge offerte et jusqu'à 4000 euros de bonus écologique. Borne d'une valeur de 990 euros hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 décembre, voire conditions sur service-public.fr et Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Cette année, les Arts Florissants vous convient à une saison de célébration pour fêter en musique le 80e anniversaire de leur fondateur, William Christie. Vous pouvez, vous aussi, participer à l'aventure baroque des Arts Florissants, initiée par ce chef de légende. et contribuer à transmettre la passion baroque aux générations futures en soutenant la fondation Les Arts Florissants William Christie. Rendez-vous sur art-florissant.org, rubrique « Nous soutenir ».
Comment une entreprise peut-elle allier durable et rentable ? 2050 Now, la maison, accompagne votre entreprise dans sa transformation durable et la projette vers de nouveaux modèles économiques. Découvrez des parcours sur mesure, alliant ateliers de prospective, expérience apprenante et une riche programmation tout au long de l'année. Rendez-vous sur 2050nowlamaison.com.
Et voilà, depuis qu'il a été chez Atoll, papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre.
Pour une vision nette de près comme de loin, découvrez les dernières technologies des verres Varilux Dessilor chez votre opticien Atoll. Élu meilleure chaîne de magasins 2025, catégorie optique pour la 7e fois consécutive. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voir sur atoll.fr.
À suivre, Christian Macarian, l'écho du monde, à quel jeu joue la Syrie, la Turquie en Syrie?
Depuis 180 ans, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, accompagne ses clients sociétaires dans la gestion de leur patrimoine. Assurance vie, épargne retraite, placement financier, mais également une solution d'épargne originale, la Tontine. Le Conservateur propose un accompagnement personnalisé aux épargnants et dirigeants d'entreprises partout en France. Nous donnons de la valeur au temps.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h41, bonjour Christian Macarian.
Bonjour David.
En Syrie, après la chute de Bachar al-Assad, les regards se tournent vers la Turquie, qui apparaît comme le principal gagnant de la révolution en cours. Que cherche vraiment Ankara et quels sont ses relais?
Bien sûr, il y a cette nostalgie nationaliste de restauration de l'hégémonie ottomane dans le nord syrien et irakien. Mais principalement, l'implication de l'armée turque en Syrie vise depuis 2011 à lutter contre les forces kurdes des YPG, les unités de protection du peuple kurde, présentes dans le nord-est du pays. La Turquie voit dans ces unités kurdes une menace près de sa frontière sud et un prolongement en territoire syrien du combat mené par les Kurdes de Turquie contre le pouvoir central d'Ankara. Pour combattre les forces turques des YPG, les Turcs ont recouru à l'entremise de l'armée nationale syrienne, l'ANS. L'ANS, c'est la formation rebelle qui ne poursuit pas d'objectifs spécifiquement djihadistes dans son combat contre Bachar el-Assad, à la différence de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, qui est entré dans Damas et qui est ouvertement djihadiste. L'ANS regroupe entre 50 000 et 100 000 combattants officiellement sous l'autorité d'un gouvernement intermédiaire syrien qui siège à Gaziantep, en Anatolie turque. Par ailleurs, l'ANS est aussi soutenue par le Qatar.
Alors, la Turquie n'a-t-elle pas aussi un deuxième objectif ?
Tout à fait. Ankara a également cherché à établir une zone de sécurité sur le territoire syrien d'une trentaine de kilomètres de largeur tout au long de la frontière, afin d'organiser le retour des réfugiés syriens dans leur pays d'origine. Depuis 2011, la Turquie a en effet accueilli plus de 3 millions de réfugiés syriens sur son sol, ce qui pose en mains endroits des problèmes de cohabitation, de sécurité et d'ordre public. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, subit une pression assez forte de la part de son électorat pour soulager la Turquie de ce fardeau. C'est pourquoi Erdogan a tenté à plusieurs reprises de convaincre Bachar el-Assad d'entamer des pourparlers pour le rapatriement partiel des réfugiés. Mais le dictateur syrien, qui avait tout à redouter d'un retour des réfugiés, est resté complètement sourd à ses appels. La chute de Bachar el-Assad vient rebattre toutes les cartes. Erdogan s'érige en acteur de premier plan en Syrie, quel que soit le sort du pays.
Alors à quoi s'attendre?
Sans surprise, la Turquie se défend officiellement d'avoir la moindre implication dans l'offensive en cours. Sauf que certains indices prouvent que HTS, Hayat Tahrir al-Sham, a obtenu l'appui de la Turquie, notamment sous la forme de drones. De même, des fuites font état de renseignements et de préparatifs assurés par l'armée turque en préalable à la prise d'Alep et afin de la faciliter. Du reste, le président Erdogan ne mâche pas ses mots en estimant fièrement que la Turquie est du bon côté de l'histoire, fermez les guillemets.
Il est possible, en revanche, qu'Ankara n'ait pas prévu que les avancées de l'ANS ou de HTS aient été aussi rapides et déterminantes au point de chasser Bachar el-Assad sans qu'il livre bataille. Quoi qu'il en soit, voici Erdogan en position de force, à point nommé pour ouvrir un nouveau chapitre de relations avec son grand ami Donald Trump.
Christian Macarian, l'écho du monde à retrouver en podcast sur l'application Radio Classique. À demain, Christian, vers 7h40, à suivre le journal imprévisible consacré à la Roumanie, traversée par une crise politique qui vient nous rappeler à quel point la France est proche de ce pays. Radio Classique, 7h45.
Avec Optique 2000, découvrez les verres progressifs Varilux.
Pour voir de près.
Comme de loin.
À l'extérieur.
Comme à l'intérieur.
Confortablement sur tous les écrans.
En lisant. Ou en conduisant.
Pour bénéficier d'un conseil personnalisé et découvrir les verres Essilor les mieux adaptés à votre vue, rendez-vous chez votre opticien Optique 2000. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Ces produits sont des dispositifs médicaux.
Dis donc, tout le monde parle de Bitcoin, de crypto, moi j'y comprends rien.
Fais comme moi, passe par CoinHouse. C'est sérieux, des experts t'accompagnent et en plus c'est français.
Ah, c'est rassurant ça.
Bien sûr, avec CoinHouse, tout est clair, accessible. C'est l'idéal pour acheter des cryptos.
Redis-moi comment ça s'appelle ?
CoinHouse, comme dans Bitcoin.
CoinHouse SAS, 14 avenue de l'Opéra, Paris 1er. La crypto-monnaie présente un risque de perte en capital lié à la volatilité des cours et à la cybersécurité. Plus d'infos sur CoinHouse.com.
Ce mois-ci dans Résidence Décoration, retour aux sources du luxe. Côté inspiration, 50 idées de cadeaux gourmands, douillets, exotiques ou encore high-tech. Un spécial tendance 2025 avec une sélection pointue de mobilier, luminaires, tapis, tissus. La nouveauté, 6 pages immobilier. Résidence Décoration, la référence déco-design depuis 30 ans. En kiosque.
Toyota.
Cette Yaris est à moi.
Je l'ai vue en premier.
Mais lâchez cette portière.
Attention, derrière vous.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Et voilà, elle est à moi.
Ouvrez cette portière, madame, ouvrez cette portière.
En ce moment, profitez d'une prime à l'hybride Toyota allant jusqu'à 5 000 € sur l'ensemble de la gamme hybride. Disponible rapidement.
Monsieur, elle s'est enfermée dans la voiture.
Toyota. Offre réservée aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 janvier 2025. Immatriculation avant le 31 janvier dans le réseau participant et dans la limite des stocks disponibles. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
Parce que le monde...